Mémoire d'un continent.
Elikiem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Les artistes et l'histoire générale de l'Afrique, femmes de la diaspora. Lorsque l'histoire générale de l'Afrique a été conçue, il y a aujourd'hui déjà plus de 50 ans, la question s'est posée très vite de savoir d'abord c'est quoi l'Afrique. C'est clair que on a décidé que l'Afrique c'était le continent dans sa totalité, en balayant donc les découpages entre Afrique soi-disant blanche, Afrique soi-disant noire, mais on a décidé aussi que l'Afrique ne se limitait pas au continent africain, puisque dans l'histoire la plus récente, on se rend compte que depuis les années 60, il y a eu des mouvements migratoires importants à partir du continent, et qu'en remontant dans le passé, on arrive au siècle douloureux de la traite des esclaves, où les Africains ont peuplé l'Asie, le Moyen-Orient, le sud de l'Europe, mais aussi le continent américain. Et cette histoire de la diaspora fait partie intégrante de l'histoire du continent africain vue à partir de l'Afrique. Maintenant, la question c'était aussi de qui s'agit-il dans cette histoire. Pendant très longtemps, les historiens ont fait comme si les sexes et les genres n'existaient pas. On parlait des êtres humains en général, que ce soit pour l'Afrique d'ailleurs ou pour les autres parties du monde, et on se rendait compte que c'était quand même très souvent les hommes. Qu'il s'agisse de rois, qu'il s'agisse de présidents, qu'il s'agisse de combattants, qu'il s'agisse de penseurs. Tout cela, évidemment, aujourd'hui a totalement changé et on se rend compte que ce que Simone de Beauvoir appelait le deuxième sexe est évidemment un acteur très important dans l'histoire de l'humanité et en particulier dans l'histoire de l'Afrique. Nous recevons donc aujourd'hui trois femmes. Marie-Josée Ali, bonjour.
Bonjour.
Et avec elle, Zoé et Fred, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc, plusieurs générations de femmes pour évoquer avec nous justement la diaspora à partir des femmes. Et c'est vrai que ce point de vue longtemps n'a pas été véritablement soutenu, même si aujourd'hui, depuis une quarantaine d'années, on voit que les figures individuelles de femmes, et puis les femmes en tant que collectivité humaine, ont joué un rôle tout à fait important. Mais alors aujourd'hui, comment ressentez-vous la diaspora, puisque c'est d'aujourd'hui que nous parlons? Commençons par vous, Marie-Josée Ali. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé à France TV, vous avez été directrice de la diversité. Aujourd'hui, vous êtes plutôt dans l'écriture, donc un travail plus personnel, plus individuel, et dans la musique. La musique, d'ailleurs, accompagne toute cette série d'émissions que nous faisons avec les artistes qui participent à la promotion de l'histoire générale. Alors, la diaspora et vous, comment la ressentez-vous? Comment la vivez-vous? Et comment la voyez-vous?
Nous sommes la diaspora. Moi, je viens des Antilles. Alors, je suis l'aînée des trois, puisque je suis la maman des deux. Et nous avons chaque fois 20 ans d'écart. Ce qui fait qu'effectivement, il y a trois générations de femmes. Nous sommes la diaspora. Une diaspora qui a été contrariée dans sa connaissance d'elle-même. Enfin, moi, j'appartiens à la génération qui a fait la recherche, qui a voulu retrouver des racines autres que celles de notre identité constituée de ce voyage fou sur l'océan Atlantique où certains des hommes et des femmes étaient dans la cale et d'autres étaient sur le pont. Et nous sommes pas des peuples premiers et on a toujours eu une fascination pour les peuples premiers, mais je crois qu'on n'est pas dans notre complétude, c'est-à-dire qu'on n'est pas totalement complet au niveau de notre identité si on va pas plus loin que la Caraïbe. C'est vrai que c'est important pour nous déjà de nous réconcilier avec nous-mêmes, parce que nous avons tous les sangs du monde mélangés, mais l'Afrique, elle est très forte en nous. Moi, je sais que quand j'étais petite, et puis après, quand je suis devenue adolescente, quand j'ai commencé à prendre conscience de qui j'étais et essayer de comprendre qui j'étais, l'Afrique a frappé très fort. J'ai une formation classique. Ma mère m'a été au conservatoire, j'ai appris le piano et tout, mais il y avait quelque chose de pressant et d'urgentissime qui me remplissait de joie, de contentement, de satisfaction, de bonheur, qui était le rythme de mon sang et du le tambour et le désir d'appartenir à la grande architecture du monde à travers des choses qui étaient beaucoup plus africaines qu'occidentales. Donc, j'appartiens à cette génération qui a fait la recherche. J'ai eu la chance d'être très proche de Césaire, d'aimer Césaire, et de le fréquenter pendant quasiment la totalité de ma vie, d'adulte en tout cas, jusqu'à la fin. Et ce qu'il m'a appris de moi-même, ce qu'il m'a appris des hommes, ce qu'il m'a appris de l'humanité, ce qu'il m'a appris de la planète, vient essentiellement de l'Afrique. Parce qu'il était comme ça. Donc j'ai été forgée à cette... Donc la diaspora aujourd'hui, c'est plusieurs, je crois, hein, c'est plusieurs niveaux de relations avec soi-même et avec le monde. Le niveau de ma génération à moi, c'était la recherche. C'était la recherche. C'était la recherche à travers un ressenti. Mais la recherche, savoir, rencontrer, arriver à aller en Afrique et rencontrer les Africains et essayer de comprendre pourquoi je me sentais tellement chez moi et en même temps tellement amnésique. Parce que je n'avais la mémoire d'aucun espace, d'aucun endroit, d'aucun repère. Et en même temps, j'avais le profond sentiment que je n'étais pas étrangère. Jusqu'à ce que je réalise que je l'étais en fait. Mais après, c'est un autre travail.
Vous avez amené avec vous un morceau de musique, la Kalenda. Alors, la Kalenda, qu'est-ce que c'est comme musique et qu'est-ce que ça dit par rapport à la diaspora?
La Kalenda, déjà, c'est au départ, c'est un morceau une chanson qu'on a écrite, Frédéric et moi, et qu'on interprète toutes les trois avec beaucoup de bonheur. C'est en français, le texte est facile à comprendre, avec des rythmes qui sont profondément... Il y a une rythmique. Et la Kalenda, au départ, c'est une danse qui se pratiquait sur la plantation. C'est une danse clandestine que pratiquaient les esclaves loin de l'œil des maîtres et qui était très érotique, qui mimait les gestes de l'amour. Et c'était une manière de revendiquer le droit à la liberté. La danse était interdite, le tambour était interdit, beaucoup de choses étaient interdites sur la plantation, en dehors de l'abomination que c'était la vie sur la plantation. Il y avait ça, il y avait tous ces interdits qui limitaient l'être humain à juste le geste qu'il faisait pour couper la canne ou pour le travail. Donc, et il y avait cette expression qui se libérait et qui était la création artistique, qui était l'art. Et toute cette Afrique qui remontait et qui se retrouvait. Et la Kalenda, c'était ça. Et aujourd'hui, je dis que nous sommes tous des enfants de la Kalenda parce que nous sommes tous des enfants de la liberté. Donc cette chanson, elle est importante.
Que tu ne parles pas de toi, que tu ne donnes pas tout, pas comme ça. Si les mots ne passent pas, le temps fera le reste, ne t'inquiète pas. Quand tu danses et bouges et balances avec tout ce que tu portes à ton bras. Moi, ce que je vois, c'est la transcendance longtemps qui nous a menés là. Je viens de parcourir la terre, à cheval sur les idées des autres. Le galop des pas qui s'en vont, à couvert le vacarme de ma tête. À gauche, les murmures de tout va bien, à droite, les cris du tout va trop mal. J'existe en stéréo, mon frère, j'existe en stéréo, ma soeur. Tu vois, tant que la vie t'emmènera, tant que la terre tournera, tant que le dessin de tes pas comptera la danse des fous, la Kalenda, on se souviendra comment c'était. Tant que la vie t'emmènera, tant que la terre tournera, tant que le dessin de tes pas comptera la danse des fous, la Kalenda, on se souviendra comment c'était. Yeah, yeah.
Que tu me parles un peu de toi sans dire sans blabla, juste comme ça. D'un mouvement de hanche, ton corps fera le reste, ne t'inquiète pas.
Quand tu danses et bouges et balances avec tout ce que tu portes, moi c'est là que je vois les âmes qui grondent, les nuits brûlantes qui nous ont menés là.
Mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon fils, ma fille, mes idéaux. Je suis fier du souffle qui passe des lèvres, je suis fier et si c'est le dernier, celui qui donne à mon chemin un destin.
Nous venons vers vous, la deuxième génération. Donc, alors, vous êtes donc 20 ans après, et votre rapport, justement à cette histoire et au présent aussi, bien sûr, parce qu'il faut vivre. La diaspora se vit également aujourd'hui au présent.
Tout à fait. Alors, ben, moi, en fait, je suis martiniquaise, née dans mon île. J'ai grandi là-bas et je suis venue à Paris faire mes études d'architecture. Diplôme en poche, j'ai décidé d'aller là où mon cœur m'emmenait le plus, c'est-à-dire vers la musique et la peinture. Et je me rends compte, en fait, et ce n'est pas une stratégie au départ, je me rends compte que la musique que je fais, en fait, elle est faite de ce mélange qui est la résultante de ce que je ressens, de ce que je suis, ce télescopage finalement de l'Afrique, de l'Europe et de toutes ces de tous ces pays différents et de ces rencontres, même dans la souffrance de toute notre histoire qui est aujourd'hui, qu'on lit aujourd'hui dans la Caraïbe. Et cette influence et ce mélange de l'Afrique avec l'Espagne, la France, l'Angleterre, le Portugal, ça donne quelque chose aujourd'hui de foisonnant, de riche. Et je me sens de ça, de ce télescopage-là qui est la vie finalement, même si ça a été douloureux, mais je pense qu'il y a eu aussi de l'amour, il y a eu plein de choses. Et aujourd'hui, je suis ce mélange-là et je me rends compte que dans ma musique, en regardant simplement, parce que je n'ai pas réfléchi au départ, mais ce truc, il y a quelque chose d'intrinsèque qui va vers l'autre et vers moi-même aussi, et qui est vraiment ce mélange-là. Et je me sens donc farouchement caribéenne avec mes racines africaines et européennes.
Alors c'était intéressant de voir que vous passez de l'architecture qui a des règles à la fois rigides, tout en laissant la place à la créativité, vers des activités où la créativité déborde peut-être.
Oui,
plus
j'avais
que
cette envie de ce côté sauvage, de partir un peu dans la peinture et dans cette liberté aussi qu'apporte la musique. Mais je crois que la musique, depuis que je suis petite, avec ma mère, ma grand-mère, mon père aussi. On est une famille de musiciens, mon père est architecte. Tout ça va ensemble finalement. Tout ça, c'est de la création. C'est vrai que l'architecture, on peut créer des choses merveilleuses justement par les contraintes. On arrive à sortir des choses qui sont extraordinaires. Et quelque part, en musique, ça m'a apporté beaucoup de choses aussi. Ça m'a permis d'aller plus loin que là où je serais peut-être allée, si j'avais pas fait de l'architecture, de la peinture, donc tout ça est lié en fait.
Fred, donc, et puis Zoé, c'est la troisième génération, là aussi, toujours dans la création, avec une créativité très importante.
Oui, ben, tout à fait, moi je suis plutôt dans le cinéma en fait au départ, et c'est pour ça que je vis cette diaspora et ce rapport à mes racines à travers le prisme du cinéma justement. Et j'ai découvert récemment, comme maman l'a dit, elle est de la génération de la recherche, moi je suis dans celle de la découverte, et c'est vrai que à travers les films africains et antillais, je trouve qu'il y a énormément de points communs, notamment dans la violence du propos et dans la recherche identitaire, dans le désir de raconter son histoire et ses origines. Et je trouve que il y a beaucoup de points communs, et c'est ce que je recherche en fait, c'est ce que j'ai toujours recherché, ayant vécu avec donc ma mère et ma sœur dans baigné dans la musique, dans tout ce qui est organique. Je trouve que l'Afrique et les Antilles se rapprochent beaucoup, notamment dans la musique, dans tout ce qui est rythmiquement organique, tout ce truc qui fait que je sais que le jour où je vais aller là-bas, je vais me retrouver un peu comme chez moi. C'est ce que maman disait, c'est comme si on était amnésique en fait. C'est une fois qu'on est là-bas, on a tous ces repères un peu éphémères qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas trop comment exprimer, mais je pense que ça fait vraiment partie de mon identité. Et j'aimerais beaucoup, c'est pour ça, de découvrir le pays, pour pouvoir mettre des vrais mots sur et des vrais sentiments sur ce que je ressens.
Vous avez déjà des idées de court-métrage ou de long-métrage?
Bien sûr.
Oui, parlons-en, une ou deux idées pour voir.
Non, mais par exemple, je sais que j'ai vu récemment un film qui s'appelle Zoulou de Jérôme Salle. C'est très intéressant parce que c'est le premier film que je vois qui n'est pas raconté du point de vue de l'Européen. C'est vraiment un Africain qui raconte son histoire. Et ça, c'est très important. Je pense que les gens, l'identité africaine soit véhiculée par les gens qui l'ont réellement vécu et qui ont réellement expérimenté la liberté, ce désir, ce besoin, cette violence et ce désir de liberté. Et moi, c'est ce que j'aimerais exprimer, mais pour mon pays, qui n'a pas une voix assez, assez jeune, on va dire, pour l'instant. Et c'est vrai que c'est ce que j'aimerais faire dans le cinéma, en tout cas, faire un court-métrage ou un film sur les origines de mon pays, sur la manière dont quelqu'un comme moi, qui est un peu de la métropole, on va dire, le regard que je peux avoir sur justement les Antilles et par extension sur, sur l'Afrique.
Donc je reviens vers vous, Marie-Josée, c'est quand même extraordinaire, ces trois générations, comment dire, qui participent de la même recherche, des mêmes découvertes.
Et je les découvre, oui, parce que oui. Je les entends comme vous. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce genre de discussion. On vit des choses ensemble, on partage des choses, mais la discussion de fond, comme on est en train de la faire grâce à vous, on l'a pas. Et c'est très intéressant. C'est vrai que finalement, le creuset est le même. Et je n'ai pas eu une éducation matraquant des idées, des choses. Non, c'est la vie. Et j'entends qu'elles s'expriment, elles expriment leur propre liberté à l'intérieur de, du périmètre qu'elles se sont choisies. Et comme moi, j'ai fait pour moi. Et je crois qu'elles le font. Et je suis ravie d'entendre que finalement, on a la même résonance. En fait, c'est comme s'il y avait plusieurs mains qui tapaient sur la même peau tendue autour d'un tambour. Mais chacune en sort son propre son. Et ça fait de la musique. Ça fait notre musique à nous, c'est notre petite musique à nous, toutes les trois.
Avec la Kalenda, nous étions dans le registre de la révolte, et c'est très important de voir que dans le système de l'esclavage, la révolte, elle est partout. Elle peut prendre la forme armée, quelquefois, la forme de la fuite, le marronnage, mais la musique est l'une manière d'exprimer cette révolte. Cette fois-ci, avec le deuxième morceau que vous nous proposez, qui est en créole, Mélancolie, c'est ça ?
Oui.
C'est une autre manière de vivre dans la diaspora.
Oui, ben, Frédéric peut le dire aussi bien que moi. Enfin, c'est un morceau que je crois que j'ai composé, mais là toute seule, il y a des années et des années, qui dit il faut se lever pour ne pas pleurer, il faut se lever pour ne pas mourir. C'est le temps qui passe qui fait la vérité. Il n'y a que les hommes qui peuvent la raconter. En gros, c'est ça. Je suis malade d'hier, j'ai peur pour demain, et aujourd'hui, c'est pas la fête, mais voilà, les debout et on va vivre.
Faut se lever pour pas pleurer, faut se lever pour pas mourir. C'est tant pourtant qu'a fait la vérité, c'est tant pouvant qu'a tué mélancolie. Pas ni rimer la peine, c'est ou pas ça prend. Dis souris pas qu'à vivre pour raconter. Moi malade hier, pas pour demain. Et je dis c'est pas jour pour la fête.
Nous venons d'entendre Mélancolie. Marie-Josée Ali, pour terminer, vous êtes écrivain, écrivaine, ça dépend, hein, on le dit les deux aujourd'hui. Qu'est-ce que vous écrivez aujourd'hui par rapport à toute cette expérience que vous venez d'exposer ?
Bah, le roman que je viens de faire, c'est un roman qui se déroule en Amazonie. Donc, parce que ma passion des peuples premiers avec des Amérindiens, mais des femmes, toujours des femmes qui viennent du monde entier. Et le prochain, il va être ancré en fait à Paris. Et je peux pas en dire plus parce que si c'est voilà, c'est une histoire complexe qui démarre avec les attentats. C'est l'histoire d'une femme qui marche. On sait pas pourquoi elle marche. Elle marche toute la journée, elle marche le soir, elle s'arrête dans n'importe quel hôtel, elle dort n'importe où, elle fait des rencontres. Mais elle fait des rencontres dans le présent mais aussi dans le passé. Voilà. Et c'est une femme qui ressemble à chacune de nous trois.
C'est encore un combat.
Et c'est une femme qui a tous les métissages du monde en elle et qui a des choses à dire sur ce que le monde est et qui, sans les dire et en vivant d'une certaine manière, porte sa petite pierre à la construction du monde de demain.
Marie-Josée Ali, Zoé Fred, trois générations de femmes face à la diaspora sont venues participer à la promotion de l'histoire générale de l'Afrique. Merci à vous trois.
Merci à vous, vraiment.
Et ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoult.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec